Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé le commandant Cousteau lors de sa consécration au Festival de Cannes de 1956. Son film, Le Monde du Silence, réalisé avec le jeune cinéaste Louis Malle et consacré au fond marin, a acquis en quelques jours une gloire internationale. À 46 ans, le commandant est désormais à flot financièrement et peut envisager de réaliser ses rêves d'exploration. Seconde partie, 20 000 lieues sous les mers. Le monde du silence montre un monde animal bien différent de celui auquel les étals de poissonniers ont habitué les gens. Certaines scènes sont à jamais imprimées dans les esprits, comme celle où un énorme mérou d'une trentaine de kilos, à l'allure aussi peu appétissante que rébarbative, semble se passionner pour la caméra de Cousteau et se livre avec elle à un ballet inédit et gracieux. L'animal suit les plongeurs, observe leur travail et les attend patiemment lors de la remontée à chaque palier de décompression. Alors l'équipe le baptise Jojo le Mérou. Depuis la sortie du film, Jojo a montré aux spectateurs médusés que les poissons sont des êtres doués de sensibilité qui ne demandent qu'à fraterniser avec l'homme. La prise de conscience vient à point nommé, car les années 50 sont aussi celles des premières hécatombes dans le monde sous-marin. La pêche intensive décime les bancs de poissons. En quelques années, certaines espèces sont réduites au dixième. Les mers se dépeuplent. Certaines images du monde du silence, à cet égard, semblent aujourd'hui irréelles. Comment peut-on croire qu'en ce temps-là, des dauphins par milliers pouvaient suivre un bateau, si nombreux qu'ils donnaient l'impression de couvrir toute la surface visible de la mer? Sur la pellicule, ils semblaient innombrables, là où de nos jours on s'extasie quand un seul d'entre eux pointe le nez hors de l'eau. Cependant, tandis que le monde s'enthousiasme, Cousteau continue son inlassable quête. Il veut aller plus profond et plus longtemps. Il a pu explorer une fosse de plusieurs centaines de mètres au cœur de l'Atlantique, la fosse de la Romanche. On plonge une caméra attachée à un câble de 7500 mètres. Nouvelle découverte, nouveaux étonnements. La pellicule révèle la présence de vie là où jamais on aurait pu l'imaginer. Mais Cousteau en veut plus encore. Il veut voir tout cela de ses propres yeux. Il fait donc concevoir un bathyscaphe spécial, proche de la soucoupe volante, imaginé par l'ingénieur Jean Mollard. L'engin réalise l'exploit de descendre à 350 mètres de profondeur, emportant à son bord deux passagers et bien sûr des caméras. Les découvertes dépassent toutes les espérances. Entre les anémones dont les bras s'agitent mollement, des poissons évoluent paisiblement à une profondeur qui les place bien au-dessous du plateau continental. On croise même un requin nageant par 250 mètres de fond, du jamais vu. Ayant réalisé tant d'exploits inédits, Cousteau est au fait de sa popularité. Il est reçu aux États-Unis, où il est gratifié en 1961 de la médaille d'or du National Geographic. En 1963, il franchit un nouveau pas dans la conquête des océans. Après avoir vu les profondeurs extrêmes, les avoir filmées depuis son bathyscaphe, il veut maintenant montrer qu'on peut y vivre. Avec son équipe, il met au point les premières habitations sous-marines, qu'il baptise « Précontinent 1 ». Au large de Marseille, deux hommes vont d'abord vivre 7 jours à 10 mètres de profondeur. Puis ils vont passer un mois au fond de la mer Rouge, dans la nouvelle version de ces maisons, appelée cette fois « Précontinent 2 ». L'expérience est un succès. Cousteau et son épouse célèbrent dans l'euphorie, dans ces précontinents, leur 26e anniversaire de mariage. Le capitaine Nemo naviguait 20 000 lieues sous les mers, et bien Cousteau, lui, y habite. Un film consacre l'aventure, le monde sans soleil. Il reçoit un Oscar aux États-Unis. Le succès est tel que sur l'impulsion de producteurs américains, Cousteau décide de créer une série filmée dont le cœur sera Les Voyages de la Calypso. À côté de cette nouvelle star des océans, Cousteau campe déjà le personnage qu'on lui connaît. Silhouette mince mais alerte, visage souriant, déterminé, et ce bonnet rouge qu'il porte en tout temps et qui rappelle un peu celui des bagnards désignés pour les sorties périlleuses en scaphandre. Ces traits marqués de vieux loups de mer font le tour du monde. Au début des années 70, les films de Cousteau sont diffusés dans près de 100 pays. Au-delà des conflits internationaux, au-delà des langues et des cultures, la beauté des abîmes sous-marins a conquis le monde entier. Le visage qui a révélé cette beauté est libre de toute étiquette idéologique ou politique. Cousteau, c'est l'homme qui, comme il le dit lui-même, vole comme un ange entre deux eaux à la rencontre des merveilles que cachent les océans. C'est l'homme qui joue avec les morses, se déguise en hippopotame pour mieux les approcher, partage son casse-croûte avec les oiseaux de mer quand il aborde une île déserte. Quand il parle, son propos n'est pas pour condamner telle ou telle disposition d'un pays par rapport aux eaux qui l'entourent. Ce n'est pas pour fonder quelque parti politique et recueillir des voix qui le mèneraient au pouvoir. Quand Cousteau parle, c'est pour dire, depuis la barre de la Calypso, « On va par là », c'est pour dire de retour d'une plongée « On doit chercher plus à l'est », c'est pour dire en déroulant la pellicule d'une dernière prise « Il faut refilmer ce récif ». Cependant, au seuil des années 80, il ne peut s'empêcher de dresser un bilan terrible de 30 années d'exploration. Dans la plupart des sites qu'il a visités au début des années 50, la faune marine qui était pléthorique a disparu. Il se sent le devoir de devenir protecteur de ce monde dont il n'a été jusqu'à présent que le découvreur. C'est dans ce but qu'il crée la Fondation Cousteau pour la protection des océans du monde entier. L'urgence est là. Il faut sauver la mer. Une bande-annonce est diffusée partout, aux États-Unis notamment, pour appeler à une prise de conscience. Cousteau compte particulièrement sur les enfants. Pour lui, ils sont la force vive, la force pure de toute aliénation. En eux, la faculté d'émerveillement est intacte. En 1979, alors que Cousteau est déjà entré dans la légende, il est foudroyé par la plus douloureuse des épreuves. Son fils Philippe, qui est depuis toujours son complice de plongée et d'exploration, meurt après avoir été frappé par l'hélice de son hydravion. Il n'avait pas 40 ans. Le coup est rude. Philippe n'était pas seulement le fils, il était l'héritier, le dépositaire de l'Empire Cousteau. Il était de toutes les aventures, de toutes les plongées, de tous les tournages. Son hydravion, le Calypso 2, était le petit frère aérien de la Calypso. Cousteau est terrassé par la douleur. En tant que père, en tant qu'explorateur, il est comme amputé. Il reste prostré des jours entiers, sans dire un mot. Il envisage de tout abandonner. 3 ans auparavant, le film qu'il avait tourné avec Philippe, Voyage au bout du monde, était sorti en salle en 1976. Il avait remporté un succès extraordinaire. Pourtant, ce tournage avait déjà été marqué par une tragédie qui, a posteriori, va résonner comme une sinistre prophétie. Le commandant adjoint de la Calypso, Michel Laval, avait été happé par l'hélice de queue de l'hélicoptère de la Calypso. Ce premier drame, puis la mort de Philippe, sont deux événements atroces qui rendent Cousteau inconsolable. Mais l'image qu'il représente l'a dépassé depuis longtemps. Il ne peut abdiquer aussi facilement. Il doit continuer. Et puisque les derniers travaux effectués avec son fils révélaient la fragilité de cette beauté qui fait le monde, il va se faire l'ambassadeur de la protection de la nature marine. Découvrir, protéger, transmettre. Il passe donc le flambeau à son second fils, Jean-Michel. Dans les années 80, Cousteau est désormais ce voyageur revenu des contrées inconnues et qui demande au public de sauver celle-ci de la destruction et de l'oubli. Malgré la fatigue, malgré cette terrible lassitude qui affecte ceux que le deuil d'un être cher a frappés, il décide pour le bien de la cause de refaire un tour du monde. Et puisque ce projet venant d'un septuagénaire paraît insensé, il faut lui donner un souffle nouveau. La Calypso a fait son temps, il faut un nouveau navire pour lui succéder. Tandis qu'on remet la Calypso en état, Cousteau met au point avec une équipe d'ingénieurs un bateau pourvu de voiles révolutionnaires. Il s'agit de deux tubes cylindriques spécialement conçus pour servir de capteurs et de propulseurs d'air. L'Alcyone est née. La nouvelle aventure peut commencer. L'entreprise fait oublier deux échecs cuisants survenus à 4 ans d'intervalle, en 1985 puis en 1989, deux parcs océaniques, ouverts à Norfolk et au Forum des Halles à Paris, sont hélas un fiasco absolu. Ces années-là, des voix s'élèvent aussi, contre toute attente, qui émettent les premières réserves sur l'œuvre du commandant. Les années 90 voient les premières manifestations de l'écologie militante. La défense de la nature s'accompagne d'une injonction de respect sans réserve du monde animal. Le monde du silence, autrefois acclamé, commence à susciter interrogations et critiques. Comment accepter cette scène où, entre autres horreurs, un baleineau est haché vif par l'hélice de la Calypso ? Comment regarder sans haut le cœur ces séquences où l'équipage de Cousteau massacre à la machette des dizaines de requins attrapés autour du cadavre du petit cétacé ? Et ce plan révoltant où les plongeurs font sauter un récif de corail à la dynamite pour en déloger les poissons ? Que signifie cet amoncellement de poissons morts récoltés après l'explosion et entassés en pyramide sur le rivage dans le seul but de satisfaire l'œil de la caméra? Était-il vraiment nécessaire de déposer au sommet de ce sinistre charnier un malheureux poisson ballon et de le filmer en train de se dégonfler, accompagnant son agonie d'un bruitage aussi grotesque que sordide? Est-ce là le credo d'un amoureux de la planète? Mais la critique va plus loin. Après avoir interrogé l'œuvre, on interroge le passé du commandant. Comment cet homme a-t-il pu mener ses premières expériences au plus fort de l'occupation allemande, alors que toute activité était soumise au contrôle de la Gestapo ? Était-il bien décent d'aller filmer des poissons, au moment même où on raflait des centaines de milliers de Juifs avant de les exterminer dans les chambres à gaz ? N'y a-t-il pas quelques soupçons sur son intégrité pendant la guerre, quand on sait que sa femme était la fille d'un cadre de la société Air Liquide, championne de la collaboration avec le Troisième Reich? Doit-on faire l'économie de cette critique vis-à-vis de cet homme qu'on porte alors au nu et dont on s'apprête à célébrer l'entrée à l'Académie française? Mais la renommée internationale de Cousteau à passer sur ces zones d'ombre. Pour la plupart, il est celui qui danse avec les poulpes et les baleines et construit des maisons au fond de l'eau, rêve définitif de tous les enfants du monde. En 2016, l'écrivain Gérard Mordilla jette un pavé dans la mare en déclarant que « Le monde du silence » est un film naïvement dégueulasse. Pourtant, c'est oublié qu'en 1956, époque de la sortie du film, on faisait bien peu de cas du respect de la vie animale. La pêche intensive allait alors bon train. On dépeçait les baleines sans vergogne. On écorchait les bébés phoques comme on épluche un légume. Peut-on reprocher à Cousteau d'avoir simplement été un homme de son temps? Pourtant, dans l'alali général, il a été le premier a montré la primauté de la vie animale sur la puissance de destruction de l'homme. Qu'il soit tombé dans les travers de son temps ne peut lui être imputé sans commettre un grave anachronisme. Toutes ces polémiques ne vont pas empêcher le commandant Cousteau d'être élu à l'Académie française en 1988 au fauteuil de Jean Delay, puis d'être invité en 1992 à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. À 82 ans, il a toujours l'allure de ses 20 ans. Sur son sourire agrémenté de rides qu'on lui a toujours connues, passent parfois les ombres des souffrances passées. Mais rien ne semble altérer son enthousiasme. Lorsqu'il meurt, le 25 juin 1997, la presse internationale unanime lui rend hommage. Il était la deuxième personnalité préférée des Français derrière l'abbé Pierre. Tandis qu'aujourd'hui encore, son œuvre plus que jamais poursuit sa mission, le commandant Cousteau a rejoint à son tour le monde du silence. C'est la fin de ce double épisode consacré au commandant Cousteau. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Victor Nolo. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.